Notre invité, Alex Carignan, de l'Université de Sherbrooke. Il est microbiologiste, infectiologue. Alex Carignan, parlons maintenant des recherches. Quand on disait les recherches, l'OMS regroupe dans un tableau là plus d'une cinquantaine de laboratoires pour ce qu'on appelle des vaccins candidats. Et il y en a certaines de ces recherches qui sont plus avancées que d'autres.
Oui, tout à fait. Il y a des différentes, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a différentes méthodes qui sont en cours. Il y a même des procédés qui sont en cours au Québec qui participent à l'effort pour trouver un nouveau virus. Il y a des méthodes, disons, plus traditionnelles. Il y a des méthodes, disons, nouvelles, entre autres de production à partir de plantes qui pourraient s'avérer intéressantes. On le sait, de plus en plus, on s'intéresse à la production de vaccins à l'aide de plantes, qui est un procédé, je dirais, plus rapide, entre autres, que par les œufs. Donc, ça peut être intéressant éventuellement si c'est un procédé qui fonctionne pour avoir un accès plus rapide, une production plus rapide aussi. Donc, ça va être certainement à suivre.
Alors, je voudrais qu'on parle, parce qu'il y a une étude aussi qui est en phase clinique en Chine. Ils ont eu un peu d'avance, étant donné qu'ils ont été les premiers à éprouver le passage de l'épidémie du coronavirus. J'aimerais qu'on parle de certains espoirs qu'on place dans une médication. Évidemment, la première chose dont on va parler, chloroquine et hydroxychloroquine. Est-ce qu'on va savoir dans un avenir approché, selon vous, Alex Carignan, si c'est un médicament potentiellement intéressant ou si il y a des bémols, c'est-à-dire certaines craintes quant à une utilisation de la chloroquine?
C'est un sujet effectivement très intéressant. La chloroquine, on en entend beaucoup parler sur les médias sociaux, ça a fait boule de neige. Il y a même des théories de la conspiration autour de cette médication-là. C'est assez fascinant de voir tout ce qui se déroule. Il faut dire que la chloroquine, pour l'instant, les évidences cliniques pour son utilisation sont très limitées. Il y a des évidences précliniques qui nous démontrent que la médication a une efficacité contre le virus en laboratoire in vitro. Par contre, au niveau clinique, on a parlé beaucoup d'une étude là, qui a été faite par le professeur Raoult à Marseille, mais c'est une très petite étude. C'est une étude qui avait plusieurs failles, disons, au niveau méthodologique, ce qui fait que, pour l'instant, les gens restent sur leur appétit. Évidemment, je vous dirais, à mon avis, il n'y a pas de conspiration. Si éventuellement, il y a un bénéfice clinique qui est démontré, c'est clair que ça va être une alternative très intéressante parce que c'est déjà disponible, c'est peu coûteux. Donc, oui, je place un certain espoir envers ça, mais là, de là à le donner à tous maintenant sans avoir des évidences, je pense qu'il faut se garder quand même une gêne. On le dit souvent, c'est une médication qui... Bon, peut avoir certains effets secondaires, on parle des problèmes cardiaques, c'est une médication qui est utilisée par beaucoup de personnes dans le monde qui en ont besoin pour des conditions rhumatologiques. Donc, si on s'accapare tout ce qu'il y a sur le marché présentement, puis actuellement, on le sait, là, les pharmacies ont de la difficulté à en obtenir pour les gens qui en avaient déjà. Le Collège des médecins a émis une position à ce niveau-là pour éviter que des gens s'accaparent des stocks de chloroquine. Donc, actuellement, ce qu'on fait, je pense, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est le donner à l'intérieur d'études cliniques. Ouais. Au Canada, on est plusieurs centres à participer dans des études cliniques internationales qui regroupent vraiment plusieurs, je dirais même centaines de centres, dont on étudie, entre autres, la chloroquine. Il y a plusieurs autres alternatives aussi qui sont utilisées, qui sont étudiées. Je pense que c'est intéressant. Il y a différentes façons aussi de combattre le virus, soit avec l'utilisation d'antiviraux directement. Donc ça, il y a des antiviraux, certains nouveaux, certains qu'on a déjà dans notre arsenal qui sont utilisés. On parle du remdesivir, du lopinavir, ritonavir. Le lopinavir, c'est quand même intéressant puisque c'est un médicament qu'on utilise depuis longtemps dans le VIH, donc on le connaît bien aussi. Ça aussi, quand même, on manque un peu de données cliniques pour l'instant. Je pense qu'on doit l'utiliser encore davantage. Il y a aussi une autre façon, en fait, c'est de combattre l'inflammation qui est causée par le virus. Parce qu'on le sait souvent, c'est pas nécessairement uniquement le dommage fait par le virus, plutôt que la réponse exagérée de notre système immunitaire face à ce virus-là. Donc, il y a certaines stratégies qui visent à, disons, moduler cette réponse du système immunitaire-là pour qu'elle soit peut-être présente, mais pas aussi agressive, qu'elle cause pas autant de dommages, donc des médicaments qui vont diminuer un peu cette inflammation-là. On a parlé entre autres de la colchicine au Québec, c'est un peu ce qu'on vise avec ça, c'est pas nécessairement de combattre le virus directement, mais plutôt de combattre la réponse qu'il va créer dans le système. Donc, il y a plusieurs voies actuellement. Je pense que c'est important à travers le Canada qu'on participe à cet effort-là parce que le plus rapidement on va recueillir des données à l'échelle internationale, le plus rapidement on va savoir quelle médication est la plus efficace laquelle on devrait privilégier. Parce qu'actuellement, c'est pas moi qui le dis, même Dr. Fauci, Anthony Fauci, on en parle souvent, le grand conseiller de Monsieur Trump, qui malheureusement n'est pas toujours écouté, mais le mentionnait actuellement, il n'y a aucune médication qui se démarque. On n'a pas d'évidence clinique pour aucune médication actuellement.
Alors, je veux vous amener sur une médication potentielle, et je vais être très prudent parce que c'est la première fois peut-être que nos auditeurs vont en entendre parler. L'ivermectine, c'est un médicament qui existe déjà. C'est pas un antiviral, c'est pas un antibiotique, c'est un antiparasitaire qui sert notamment pour traiter des épidémies de gale, qui a obtenu un certain succès aussi dans des cas de paludisme. On dit que l'Université Monash, près de Melbourne, c'est une grande université, a réalisé des tests très intéressants in vitro, donc en éprouvette, que le virus, le coronavirus actuel, ce SARS-CoV-2, pouvait mourir en 48 heures par les tests qui ont été faits lorsqu'on introduit l'ivermectine, qui est commercialisée notamment par le nom Stromectol. Ce que je vous demande, Alex Carignan, est-ce que d'abord c'est intéressant, cet ivermectine, et est-ce qu'il nous arrive souvent d'être déçus que des tests in vitro ne soient pas malheureusement démontrés in vivo chez des humains?
Ben, c'est exactement, en fait, ce que lorsque vous mentionnez, je pense que oui, effectivement, c'est intéressant. C'est déjà une première étape de savoir qu'il y a une efficacité. C'est très intéressant. Mais je vous dirais que ça commence à faire quelques années que je suis là-dedans. Puis, malheureusement, trop souvent, on est un peu déçu lorsqu'on passe de l'in vitro à chez l'humain. C'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment, disons, faut être très prudent avant d'extrapoler des résultats in vitro à des patients. Je vous dirais, bon, effectivement, j'ai vu sortir ça dernièrement. Je trouve que c'est intéressant, encore une fois, parce que c'est une médication qui est déjà présente, déjà existante dans notre arsenal. Est-ce que ça va démontrer des effets cliniques? C'est certainement à suivre.
On dit que l'université prévoit donner des résultats in vivo à la fin du mois d'avril. Autrement dit, confirmer que ce qui a été observé en éprouvette peut se donner de façon sûre, sécuritaire et avoir les mêmes effets chez l'être humain.
C'est très rapide, je vous dirais. Bien, actuellement, ça, c'est un des éléments qui est très positif dans ce qu'on voit. Toutes les institutions vraiment se serrent les coudes pour que les processus qui normalement peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, souvent sont réduits à quelques jours. Entre autres, bon, si on parle au niveau des approbations éthiques pour mener les études, je pense, encore une fois, oui, il y a une certaine urgence, mais on ne doit pas non plus laisser tomber nos barrières éthiques. Je pense que c'est important quand même qu'il y ait une évaluation rigoureuse des potentiels risques, entre autres lorsque des patients participent à des études, parce que faut quand même garder certains remparts. Faut pas que nos patients non plus deviennent uniquement des cobayes, des animaux de laboratoire. Donc, je pense que chaque étude doit être évaluée rapidement, mais quand même selon des critères rigoureux. Bon, tant mieux si dans ce cas-là, ça a été évalué rapidement, on est capable de mettre en branle le recrutement aussi rapidement et d'obtenir des résultats. C'est à souhaiter.
C'est à suivre. Merci beaucoup, Alex Carignan. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Et nous allons d'ailleurs avoir aussi ce genre de questions avec le docteur Martin Junot. qui, lui, a fait une mise en garde contre l'utilisation de la chloroquine ou encore de l'hydroxychloroquine comme médicament miracle. On est tous à l'attente, en attente d'un médicament ou d'un cocktail de médicaments miracle, mais il y a de la prudence, comme d'ailleurs vous l'avez entendu de la bouche même d'Alex Alex Kerignan. On doit garder une éthique dans la fabrication des médicaments, dans l'introduction des médicaments et des vaccins également.